Bon après-midi à tous et à toutes, chacun et à chacune. C'est bon, dans une célébration comme celle-ci, de pouvoir commencer à se prêcher par des cantiques. Bien sûr, les cantiques n'ont pas pour but d'abord de nous édifier, mais premièrement de proclamer les attributs de notre Dieu. Mais étant héritier de ce royaume-là, il va sans dire que nous en tirons grand profit. On chantait tout à l'heure « Tiens dans ta main ». C'est puissant. La grande main du Seigneur, grande et puissante, est la toute petite personne au milieu, et il me tient dans sa main. Ô Seigneur, fais grandir notre foi, pour qu'on réalise en effet, permettez-moi la redondance, cette réalité-là, que nous sommes dans sa main puissante. Je relisais les premières lignes. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Tiens dans ta main tous les jours de ma vie, qu'ils soient des jours de peine ou de bonheur. Tiens dans ta main mon cœur plein de faiblesse. Sans ton secours, je ne puis faire un pas. Tiens dans ta main ma main parfois tremblante. Quand vient l'épreuve et ses jours de douleur. Belle prière à faire. Tiens dans ta main mon âme tout entière. Révèle-moi, Jésus, tout ton amour. Amen. Belle prière à faire et à refaire. Nous allons aujourd'hui revenir donc à notre réflexion sur le livre de l'Apocalypse. Comme je le mentionnais mercredi dernier, ce livre que nous avons entamé le 9 octobre 2022. Ça fait un bail, dirait l'autre, hein? Et pourtant, il me semble que ça a passé tellement vite, vous voyez? Et on est rendu au chapitre 14. On va aujourd'hui, bien sûr, revenir à cette reconsidération-là de ce que nous voyons dans ce beau livre-là. Et mon dernier message sur le sujet, vous vous en souviendrez peut-être, remonte au mois de novembre dernier, avant qu'on entre sur le chemin de Noël avec toute notre série de prédications qui nous ont tenu loin, donc notre série expositoire. On va donc se permettre un petit retour sur la scène, question de remise au parfum, afin de voir la suite de ce livre-là. Pardon. Nous en sommes donc à la fin du chapitre 14, et ce chapitre-là vient conclure la quatrième division du livre de l'Apocalypse. Dans la première section, nous avons vu le Christ qui révèle sa gloire. Hein? Les chapitres 1 à 3, on voit les lettres aux sept églises, et on voit le Seigneur qui révèle effectivement sa majesté et sa gloire. Les versets 4 à 7, qui forment la deuxième section, on nous a introduit aux sept sceaux qui nous présentent le Christ en train de régner tout au long de l'histoire, parce que l'Apocalypse nous parle effectivement de tout ce qui a cours entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Christ qui règne tout au long de l'histoire pour la préservation, nous sommes dans sa main, pour la préservation de son peuple. Chapitre 8 et 11, à 11, nous avons les sept trompettes avec les jugements qui affirme l'inexorable victoire sur le monde rebelle, l'incontournable victoire sur le monde rebelle. Et les récits symboliques de la quatrième section, là où nous en sommes, les chapitres 12 à 14, mettent en lumière le combat spirituel qui fait rage derrière la scène de l'histoire de l'Église. Donc, cet après-midi, nous allons plonger nos regards dans ce 14e chapitre, les versets 14 à 20. Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 20. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre. » Car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Puisse le Seigneur nous donner quelques lumières alors que nous sondons ce texte qui est en apparence simple, mais qui a ses complexités, bien sûr, mais qui est très, très riche. En fait, c'est une méga dose d'encouragement que nous avons dans ce texte-là. Ce texte, bien-aimé, vient encore nous confirmer une chose importante. C'est que la mort n'est pas le point final de notre existence. Ce monde n'est pas les seules cartes que nous avons à mettre sur la table, pour ainsi dire. Cette vie est loin d'être tout ce que nous avons. En fait, ce n'est qu'une infime partie de notre existence que nous vivons sur cette terre. En philosophie, on dit, avec justesse d'ailleurs, que l'être ne peut pas retourner au non-être. Je n'apprends rien, on est tous au courant de cela. L'être ne peut pas retourner au non-être. Saint Augustin était le premier à en parler. Saint Augustin disait, être, c'est être près de Dieu. Plus on est près de Dieu, plus on est. Et moins on est près de Dieu, moins on est, sans jamais cependant retomber dans le non-être. C'est dire que les circonstances de nos vies ne sont que des ponctuations, des virgules, si vous voulez, et non le point final du texte de nos vies. Bien sûr que notre existence terrestre aura un terme. Je pense que la plupart d'entre nous, on s'en réjouit en quelque part. Il y a des jours où on s'en réjouit davantage que d'autres, hein, que notre pèlerinage terrestre va avoir un terme parce qu'il y a quelque chose d'infiniment meilleur qui nous attend. Hein. L'apôtre Paul le dit lui-même qu'il préférerait beaucoup être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur. Alors que le monde présent, non, ne sera plus. Mais ce ne sera pas la fin de notre existence. Et c'est bien ce que nous voyons dans cette péricope, à la fin de ce chapitre-là, ou de ce chapitre-ci, avec la moisson et la vendange. Parce que c'est ce que nous avons en effet, deux vignettes ici. Deux vignettes qui impliquent deux moissons différentes. En fait, elles impliquent une moisson, selon la terminologie du texte, et également une vendange. Ces versets nous rappellent avec instance notre comparution éventuelle et incontournable devant notre Dieu, soit pour une confirmation de grâce, ou encore pour une confirmation de jugement éternel. Oui. Nous croyants, nous avons une assurance. Elle est parfois ébranlée, surtout lorsqu'on regarde à nous-mêmes, surtout lorsqu'on fait encore l'inventaire de nos nombreuses faiblesses, de nos chutes, surtout quand on regarde encore toute la route à parcourir, dans l'échelle, si on peut appeler ça une échelle de sanctification, je ne crois pas que la sanctification soit une ascension. La sanctification, c'est une marche constante qui croît dans l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Mais l'image qu'on emploie pour nous, une vieille image que je trouve encore tout à fait à jour, c'est comme des étudiants qui ont terminé leur programme et qui savent très bien qu'ils ont réussi leurs examens. Alors c'est complet, vous voyez. On ne leur demandera pas de refaire le programme à nouveau et de repasser les examens. C'est terminé. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent la collation des grades. Ils attendent le jugement final, vous voyez. Alors on va leur remettre leur diplôme et ça va être la consécration ultime. Ce n'est pas ainsi pour ceux qui ont échoué. Ils n'attendent que le prononcé de sentence. Nous allons donc voir aujourd'hui dans l'ordre le moissonneur, la moisson et la vendange. Je ne suis pas certain si j'ai besoin de lunettes. On va essayer à tâtons, dirait l'autre. À la fin des sections précédentes, nous avons été amenés à la toute veille, vraiment au bord du retour du Christ en gloire, mais maintenant, pour la première fois, nous assistons au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu une première fois pour le salut et il revient pour le jugement final. C'est bien ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. On sait tous que c'est Apollos. Non, plaisante. On croit qu'il y a une forte possibilité que ce soit Apollos en raison de la qualité du grec qu'on retrouve, mais on n'a pas le nom de l'auteur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 9, versets 27 et 28, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Voilà, la moisson. La parole de Dieu est généreuse quant à la révélation de l'assurance du retour du Seigneur. On l'a vu d'entrée de scène au livre de l'Apocalypse, chapitre 1, et au verset 7, où il est écrit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, est-il ajouté. » Et c'est bien de lui dont il est question ici. Malgré que plusieurs commentateurs croient plutôt qu'il s'agisse ici d'une créature angélique et non pas du Seigneur Jésus, surtout en raison du verset 15, où il reçoit l'ordre, ou enfin un signal, devrait-on dire, d'un ange. Hein? Au verset 15, Jésus reçoit instruction de la part d'un ange, un autre ange sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. » On va en reparler tantôt, mais le texte semble plus qu'évident que nous sommes ici en présence du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui vient à titre de moissonneur. C'est vraiment le Christ, d'ailleurs, qui importe dans toute cette péricope-là. Bien sûr, on pense toujours à notre peau, où on va être dans ce récit-là. Hein, qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Quel est mon profit dans ce texte-là? Mais le texte nous parle vraiment de la grandeur et de la majesté du Seigneur Jésus-Christ. Et l'un des éléments qu'il confirme sans conteste, c'est la sainteté décrite au verset 14. « J'ai regardé et voici, il y avait une nuée blanche. » Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Nous sommes ici devant le retour de Jésus, porteur de l'emblème de sa gloire, porteur de l'emblème de son triomphe. Il revient sur une nuée et c'est tout à fait caractéristique de la révélation biblique. On l'a lu un peu plus tôt. Hein, on l'a lu il y a à peu près quelques minutes. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. C'était pas un discours nécessairement nouveau. Dans Matthieu 26, 64, c'est Jésus lui-même qui parlait et qui dit « De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur... » Vous avez raison, les nuées du ciel. Il venait sur les nuées du ciel. C'est tout à fait symptomatique de la sainteté du Christ Jésus. Il n'y a personne d'autre qui vient sur les nuées du ciel. Vous pouvez faire les 66 livres de la Bible et il y a seulement l'être divin qui se meut par le biais des nuées du ciel. Alors, ces nuées-là d'une blancheur immaculée sont un symbole de sainteté par excellence. Le prophète Daniel n'est pas en reste non plus. Hein? Il n'a pas manqué de nous mettre sur la piste. Au chapitre 7, versets 13 et 14, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, son règne ne sera jamais détruit. » Le Fils de l'homme qui revient sur une nuée du ciel. 700 ans avant que le Christ vienne, oui? Bien-aimé, Jésus, notre Sauveur, qui est aussi notre Seigneur, on ne peut pas le diviser, hein? Il est à la fois notre Sauveur et notre Seigneur, il est parfaitement saint. Il est subjectivement saint. Et il est objectivement saint aussi. Il a été conçu du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il n'a pas été affecté par la tâche originelle. Nous, on vient tous au monde pécheur. On pêche parce que nous sommes pécheurs. Ce qui n'a pas été le cas du Christ, conçu par le Saint-Esprit. Il n'a pas été affecté par le péché originel. Et dans sa vie terrestre, malgré que tenté en toute chose, la parole est d'une clarté cristalline, il n'a pas péché. En raison de cette parfaite sainteté, il est habilité à être notre juge devant un Dieu infiniment saint. Et devant un Dieu infiniment saint, il faut rien de moins qu'une infinie sainteté. Seul le Christ pouvait nous l'offrir. C'est donc à sa lumière que nous devons nous évaluer. C'est un combat, ça, hein? S'évaluer à la lumière du Christ. Parfois, on va se comparer aux autres, ou parfois les autres nous comparent aux autres. C'est un peu moins intéressant, mais ça arrive aussi à l'occasion. Mais c'est toujours à la personne du Christ Jésus qu'on doit se mesurer. Et bien sûr, on n'est jamais de taille. Hein? Et ça nous rappelle la grandeur et l'immensité de sa grâce, de sa bonté, de sa persévérance, de sa longanimité. Il y a quelques années, j'avais coutume de dire, lorsque les humains ont mal à la tête, ils prennent de l'aspirine, et lorsqu'ils ont mal à l'âme, ils prennent de la papyrine. La papyrine consiste à dire, je suis pas pire que l'autre, oui. Je suis pas pire que mon voisin, je suis pas pire que mon cousin, je suis pas pire que ton beau-frère. Non, mais c'est un petit peu comme cela. Et on se console en disant, bon, voilà. C'est Duplessis qui disait, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Il y avait la papyrine, lui aussi, à ce moment-là. On se mesure donc à partir des autres. Rappelons-nous l'expérience différente d'Ésaïe le prophète. Ça, c'est une portion de l'Écriture qui nous est très familière. Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 5. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, le Trisagion, hein? Saint, 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 3 fois 5. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, mes yeux ont vu l'Éternel des armées. Ça, c'est la vraie adoration. La vraie adoration, ça part de l'intérieur. Il y a toutes sortes de personnalités. Il y a des gens qui sont plus expressifs, des gens qui sont plus passifs. Ça n'a aucune espèce d'importance, l'extériorité. Ce qui importe de l'adoration, c'est que nous ayons une vision claire de la grandeur, de la majesté et de la sainteté de notre Dieu. Et dans ces moments-là, vous savez, nous n'avons qu'une seule réaction. « Woe unto me ! » Hein, malheur à moi, je suis un homme, je suis une femme aux lèvres impures. Mais on sait ce qui s'est produit par la suite. On a eu plus que le tison de l'autel, on a eu le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu nous laver de toutes nos fautes. Est-ce que ça ne nous arrive pas parfois comme ce pharisien au temple qui remerciait le Seigneur de ne pas être comme le reste des hommes? Je te remercie, Seigneur, que je ne suis pas comme le reste des hommes. Hein. Puis je ne suis pas comme le publicain derrière qui se frappe la poitrine. Là. Merci, Seigneur, que je ne suis pas comme lui. Et nous-mêmes, il peut même nous arriver de dire, je te remercie, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme ce pharisien. C'est très pharisaïque. Mais nous avons tous cette tendance-là à nous comparer et à nous consoler. Meilleur que lui. Notre notion de justice, elle est tellement triturée, frères et sœurs. Souvent loin de la révélation divine, le président américain Donald Trump, pour ne pas le nommer, a signé un décret affirmant qu'il y a deux genres, mâle et femelle. Et pour plusieurs, c'était une révélation, parce qu'il était rendu à sept genres. Mais voyez comment on peut triturer la vérité lorsqu'on n'est pas au profit de la révélation de notre Dieu. À quel point on a besoin de sa parole, à quel point on a besoin d'y revenir. C'est une question importante de savoir qu'il y a deux genres, mâle ou femelle. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas des mâles, des femelles, des homosexuels. Hein? Il y a des mâles et des femelles, point à la ligne. Et on compose avec ça, vous savez. Il y a des gens qui ont des combats dans l'homosexualité. On comprend ça, on compatit avec eux. Mais il est extrêmement important de comprendre que c'est une question de combattre un péché. L'homosexualité, ce n'est pas une vertu. On ne vient pas au monde comme ça, vous savez. Hein? C'est une question de péché qu'on a à mater et savoir je suis un homme ou je suis une femme et je vais vivre comme d'elle. Enfin, ça, c'est un autre sujet. On y reviendra éventuellement. Calvin écrivait avec justesse dans son livre 1, au chapitre 2 de l'Institution chrétienne. Gloire à Dieu pour notre frère Paul Wells, qui nous a fait tellement une belle version de l'Institution chrétienne en français contemporain. Oh, alléluia! Alors, il écrivait quoi, Calvin, dans l'Institution chrétienne? J'ai pris l'édition abrégée ici. Ainsi, l'œil habitué au noir trouve une parfaite blancheur à ce qui est brunâtre ou grisâtre. Belle vérité! Ainsi encore, lorsqu'en plein jour nous regardons à nos pieds ou nous regardons alentour, notre vue nous paraît admirablement claire. Mais si nous levons les yeux droit vers le soleil, notre vue si perçante au niveau du sol est à l'instant éblouie et aveuglée par la clarté d'en haut. Ésaïe devant la blancheur immaculée de notre Dieu. Nous devons bien avouer alors que notre vue si supposément forte et si bas n'est que misérable impuissance quand il est question d'aller jusqu'au soleil. Quelle dépendance est la nôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et toujours au verset 14, alors on voit que le Christ est parfaitement saint. Et c'est dans la mesure de cette sainteté-là qu'on peut mesurer à quel point on a besoin de l'immensité de sa grâce. Nous voyons également son incarnation, verset 4. Incarné, hein, c'est ce que veut dire incarnation, venu dans la chair. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Voilà. Nous sommes devant le grand mystère de ce qu'on appelle en théologie la théanthropie. Christ, il est à la fois théos, il est à la fois anthropos. Il est à la fois Dieu et il est à la fois homme. Alors, nous sommes devant ce grand mystère-là. En qualité de Dieu, c'est évident que le Christ était omniscient. Il n'y a strictement rien que le Père connaît, puis il connaît tout, c'est lui qui a tout décrété, que son Fils ignore, ou que l'Esprit ignore dans sa divinité. Cependant, que dans son incarnation, à titre d'homme, même s'il était sans péché, il y avait des limites à sa connaissance. Et là, ça explique le verset 15 qu'on a lu tantôt, vous voyez, hein, où Dieu, par le biais d'un ange, lui dit que le temps de la moisson est venu. Rappelons-nous ce que le Christ nous a dit alors qu'il était justement dans son incarnation, à Matthieu 13, versets 31 et 32. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le ciel, ni le Fils. » Non pas ni la deuxième personne de la Trinité, non, ni le Fils. Le Christ incarné, voyez, mais le Père seul. Et voilà que par le biais d'un ange, le Père déclare que le temps est accompli. C'est beau, hein, comme texte, quand même. Et ce personnage qui ressemblait à un fils d'homme, assis sur une nuée blanche, portait quelque chose sur sa tête. Une Stéphanos couronum, une couronne d'or. Ayant sur sa tête une couronne d'or. Le Christ est roi et un roi ça règne. Et Jésus vient confirmer cette grande vérité attendue depuis des siècles, mais contestée par une humanité perdue. C'est bon de relire le psaume 2, lorsque le monde s'agite et lorsqu'on a l'impression qu'on est tellement petit et tellement impuissant comme Église. C'est tellement bon de savoir que nous avons un héros. Nous sommes en quelqu'un, nous faisons partie de l'armée de quelqu'un qui est manifestement le vainqueur. Et aucune machination humaine ne peut énerver. Nous disons effectivement, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Le tumulte des nations. Est-ce que ça existe, ça? On parle d'une quinzaine de minutes d'un tarif et tout le monde s'énerve. Non, mais c'est vrai, on a la mèche courte, hein, on ne veut pas faire de politique. Mais le tumulte parmi les nations. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Bien-aimés, si nous sommes partie prenante dans son royaume, c'est la meilleure nouvelle que nous puissions entendre. Il vient chercher ses concitoyens des cieux pour une aventure éternelle de félicité pour les siens. Mais pour les perdus, un jugement sans merci. À quel royaume appartenons-nous? C'est important d'être fixé. Hein? C'est maintenant que ça se décide alors que le temps vient. Il vient vite. Et il est vraisemblablement plus près de nous qu'on le croit d'ailleurs. Où le Christ lancera sa faucille pour la moisson et pour la vendange. Ce qui m'amène à mon deuxième point, la moisson. Il semble y avoir un ordre dans ces versets-là, les versets 14 à 16. Les élus d'abord, et dans un deuxième temps, les réprouvés. La moisson, puis la vendange. Hein? Nous ne sommes cependant pas ici devant le système dispensationaliste, là, avec l'enlèvement des sauvés, suivi de 7 années de tribulation pour se terminer avec le retour de Christ. D'aucune façon. Le texte fait cependant mention de la moisson des sauvés en premier, puis de la vendange des perdus ensuite. C'est pas sans nous rappeler la question des deux témoins qu'on a vu il n'y a pas si longtemps au chapitre 11. Les deux témoins, on le sait, représentent l'Église et au terme de leur ministère, ça s'est terminé comment leur ministère? Ils ont été vaincus. On trouve ça dans Daniel aussi. Les saints ont été vaincus. Mais la victoire est là, mais ils semblent vraiment avoir une défaite au départ. Au terme donc de leur ministère, après avoir été vaincus par la bête, après les 3 jours et demi, le Seigneur les rappelle au grand désarroi des apistoïs, au grand désarroi des impies. Et c'est dans un contexte de jugement dernier où la moisson précède la vendange. Le verset 15 à 16 nous dit sans embâge, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre, et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Le Christ a moissonné la terre. La moisson de la terre est mûre. Donc l'heure de moissonner est venue. Jean-Baptiste l'a employé, ce mot-là qui est traduit ici par mûr, qui est zeraino. Il l'a employé pour contraster le blé divin avec la paille des impies. Matthieu chapitre 3, verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Dans l'une de ses paraboles, Jésus fait dans la même mouvance. Matthieu chapitre 13, versets 25 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Puis, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Ben, il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il. » Et là, il dit que ça va se produire à la fin des temps, ça va se produire là où nous sommes actuellement, au chapitre 14. On voit donc la différence qualitative entre les deux et la fin de chacune. Et ça nous rappelle une vérité importante qui nous invite constamment à nous reposer sur la croix. Est-ce que ça nous arrive de vouloir prendre un petit pas en nous éloignant de la croix? Bien sûr, ça nous arrive à l'occasion. Ça nous arrive tous. Notre dépendance de la croix. C'est une chose, bien aimé, de connaître la doctrine du salut par grâce. Mais c'est une autre chose, bien plus importante, que de connaître la grâce de la doctrine du salut. On peut avoir une très, très, très belle connaissance de la doctrine du salut par grâce, mais il nous faut impérativement connaître la grâce, expérimenter, savourer, vivre, être renouvelé, ressuscité par cette même grâce de la doctrine du salut. La moisson de la terre sera mûre lorsque tous les élus, toutes les brebis du bon berger seront entrés dans la bergerie. Et la tâche du rassemblement, elle appartient à qui? Elle appartient au bon berger, virgule, oups, ça se termine donc pas là. Elle appartient au bon berger qui fait appel à son Église pour cette mission-là. Vous devez considérer les versets de base de la mission du Seigneur Jésus-Christ, Jean 20, 21. J'ai prêché ce texte en anglais il y a des années. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme Le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est pas une autre mission. C'est la même mission, de la même manière que le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. On continue la mission. C'est la mission que le Christ a commencée par son ministère terrestre et qui continue depuis le ciel par le biais de son Église. Ce qui nous amène à notre troisième point, la vendange. Au verset 17 et 20, ou 17 à 20, devrait dire, nous avons la troisième partie du texte, donc la vendange. J'espère que nous croyons tous à la persévérance des saints, dans la grâce de Dieu. Mais nous croyons aussi dans une perspective différente à la persévérance des pécheurs, dans leur mépris du Christ. Apocalypse 22, versets 10 à 11, fait référence à cette réalité. Et il me dit, « Ne cède point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore, se mette encore à part de plus en plus. » On ne peut passer sous silence ce qui nous est rapporté ici au verset 17 à 18. Un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante à la main. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressant d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » On se rappellera, au chapitre 6, versets 9 à 11, on ne retournera pas là-dedans, là, de même qu'au chapitre 8, versets 3 à 4, qu'on a vu des martyrs sur l'autel. Vous souvenez-vous de cela? Et les martyrs disaient au Seigneur, « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Viendras-tu prendre vengeance de nous? » Alors ils étaient sur l'autel, hein, qui demandait justice, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme Dieu, comme eux. Dieu, vous savez, utilise la prière des saints dans le jugement des perdus. Dieu utilise la prière des saints dans le salut des élus. Dieu utilise la prière des saints. Dieu nous rend co-ouvriers avec lui dans l'avancement de son règne. Non pas qu'il ait besoin de nous, on est beaucoup plus embarrassant qu'autre chose. Mais Dieu choisit qu'il en soit ainsi pour nous rendre partie prenante de sa gloire. À noter que ce n'est pas le Christ qui opère la vendange, hein? Mais des anges. Même si Jésus est directement impliqué dans le salut de son peuple, le jugement des perdus, même sous son autorité, n'implique pas le contact personnel. Alors, c'est la main du Christ, le Christ en action, qui sauve son peuple, mais un commandement suffit pour le jugement des réprouvés. Les versets 19-20 nous décrivent l'horreur de ce jugement-là. Le libre cours à la colère de Dieu contre les impies. Et l'image est très explicite. La colère de Dieu illustrée comme une énorme cuve remplie de rebelles qui se voient foulés aux pieds à la manière des raisins. C'est une terminologie qu'on retrouve également chez les prophètes, entre autres Ésaïe chapitre 63, Versets 3 et 4. J'étais seul affolé au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Ça, c'est l'extraordinairité, si vous me passez un néologisme, de la parole de Dieu. À l'intérieur d'un gros discours de jugement, il y a un discours de grâce. Hein? Oui, mais mes élus, mais ceux qui m'aiment, ceux qui me servent. Hein? Et Jean décrire que la cuve fut foulée hors de la ville au verset 20. Ce qui signifie le rejet impliqué dans le jugement de Dieu. Les perdus sont hors des limites de l'alliance du salut de la cité de Dieu. Rappelons-nous que le Christ a été crucifié hors de la ville. Et le nombre des perdus est incalculable. Le texte nous dit symboliquement que du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Et ça a l'air de rien, mais c'est au-dessus de 300 kilomètres. Bien sûr, c'est symbolique. On le comprend bien. Mais on peut voir quand même l'image. À la hauteur du mort des chevaux, c'est assez gros un cheval, hein? Sur 300 kilomètres, c'est un grand jugement. C'est une description qui donne des frissons dans le dos. Tant et tellement que certains refusent d'y adhérer, disant qu'un Dieu d'amour ne peut pas faire une telle chose. Notre définition de l'amour, hein, elle est à refaire à tellement d'égards. Encore ici, croire qu'un Dieu d'amour ne pourrait pas faire une telle chose, c'est d'avoir une très mauvaise perspective. C'est d'avoir une perspective purement anthropocentrique de l'amour où on laisse tout passer. Particulièrement dans une culture où les lois n'ont plus de dents. Une culture purement anthropocentrique qui ignore la sainteté de notre Dieu. L'horreur de ce jugement-là, elle est directement proportionnelle à l'horreur du péché. Ceux qui se scandalisent, que Dieu envoie des gens en enfer, est-ce qu'ils se scandalisent de savoir qu'il y a des péchés? Que notre Dieu infiniment saint est offensé, que sa révélation est transgressée, que les hommes, pour reprendre l'expression de Romains 1, gardent captive la vérité? En conclusion, la leçon qu'Asaph au psaume 73 a apprise, et de laquelle on doit constamment se rappeler, c'est que le croyant doit vivre dans la conscience de la destination finale. Et pour reciter mon bon frère Mathieu, hein, il doit vivre le futur, maintenant, le moment futur, maintenant. Et non pas se concentrer exclusivement sur la route. On regarde la destination. Notre vie est faite de ponctuations, comme on le disait tantôt, qui ne représente pas le point final du texte jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Le croyant se doit de vivre bien davantage par la foi que par les émotions. Je vais le redire encore, puis envoyez-moi un « Amen » tonitruant. Okay? Le croyant se doit de vivre bien davantage par la foi que par les émotions.
Amen.
Ouh, amen, en effet. On tombe souvent sur les émotions. Quand tout va bien, de l'Église, une prédication, la foi est très, très forte. On sort, il y a une épreuve, on retombe sur les émotions facilement. Ce ne serait pas normal de ne pas avoir d'émotions. On n'est pas en train de blâmer les gens pour avoir des émotions. On a été créés pour cela. Maintenant, nos émotions doivent se soumettre à notre théologie. On ne doit jamais prendre nos responsabilités, assumer nos responsabilités sur la base de nos émotions. C'est ce que le monde fait et on va où le monde s'en va. Il est impératif d'avoir une autorité au-dessus de nous, d'avoir un ultime au-dessus de nous qui s'y connaît infiniment plus. Un exemple qu'on prend toujours, si on a un problème d'électricité à la maison, si vous êtes comme moi, touchez pas à ça. Vous allez vous électrocuter, on fait venir l'électricien, on fait venir le spécialiste. Notre Dieu nous a donné la vie, Et il nous a donné le mode d'emploi de la vie. Alors, on ne prend pas nos décisions, on ne fait pas nos projets sur la base de nos émotions, mais sur la base de notre théologie. Et nos émotions sont invitées à s'en réjouir. Alléluia. Donc, le croyant se doit de vivre bien davantage par la foi que par les émotions, bien plus par les promesses que par les perceptions. Cette leçon du combat d'Azaph, combat auquel vous et moi, nous nous identifions, et qui a été celui des croyants de toutes les générations, trouve sa réponse dans ce chapitre-là qu'on vient de voir. Nous voyons la prospérité, nous voyons le succès, nous voyons la puissance des gouvernements antichrétiens, des religions antichrétiennes, des sociétés antichrétiennes, des populaces antichrétiennes. Et en contraste, nous voyons les chrétiens, tellement souvent toi, exposés au mépris, à la persécution, à la pauvreté et aux détresses dans tellement de coins du monde, alors qu'ils servent le Seigneur. On peut comprendre que certains questionnements quant à l'utilité de marcher avec Christ peuvent survenir en surface. Ce chapitre 14 de l'Apocalypse nous crie dans un mégaphone de regarder au sort final des croyants et des incrédules. Dans une perspective d'éternité, le moment, je pense que c'est Christian qui le mentionnait tout à l'heure, côté éphémère des moments présents, dans une perspective d'éternité, le moment présent qui parfois peut nous sembler si lourd n'est en bout de ligne qu'éphémère. Bien-aimés, gardons le cap. Gardons notre drapeau hissé au mât de la foi. Et joignons-nous avec conviction au propos de l'apôtre Paul. En Romains chapitre 8, versets 18 et 19, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Voilà une méga dose d'encouragement. Amen.